Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce 21e épisode de votre émission sport préférée. Bienvenue sur Temps Additionnel. On est le 12 juin 2024 et vous écoutez Radio Esprit Occitanie. Avec Alex, aujourd'hui, on a pas mal de choses à traiter. Adichas, à toi.
Adichas, Raphaël.
Au menu aujourd'hui, donc du rugby avec le dernier match de la saison du Stade Toulousain. On se projettera aussi sur les barrages et les playoffs pour la montée en top 14 aussi, qui s'est joué ce week-end. Ensuite, on parlera de MMA, l'Hexagone MMA à Toulouse. On y était avec Alexandre, on a réussi à interviewer quelques combattants. Mais vous verrez ça tout à l'heure. On posera aussi nos valises au Canada pour le Grand Prix sur le circuit de Gilles Villeneuve. Deux jours aussi avant le début de l'Euro, on fera aussi un petit point sur les favoris du tournoi qui on voit gagner et les matchs qui se sont déroulés dans les soirées de la semaine dernière. Et pour finir, pas de Phoenix cette fois-ci, mais on parlera du tennis et de Roland-Garros. Bon, le week-end dernier, le Stade Toulousain s'est déplacé sur la pelouse de Lyon, défaite de nos stadistes face aux Lyonnais dans ce dernier match de la saison sans enjeu pour les deux équipes. On rappelle les essais quand même côté Toulousain. Il y a Teo Ntamack, il y a Castro Ferreira, il y a Capozzo et il y a Sofiane Guitoun à la dernière minute. Donc Toulouse était déjà assuré d'être premier de la saison régulière et le Loup assuré d'être maintenu en top 14. Donc deux équipes qui jouaient libérées pour nous offrir quand même un beau spectacle sur la pelouse de Gerland. Pas de regret du côté toulousain, c'est sûr que c'est toujours bien de finir sur une bonne note, mais bon, c'était pas l'équipe alignée face au Leinster, hein. comme à son habitude, Hugo Mola, il a mis son équipe B, où il y avait quand même du beau monde, hein. John Brennan, Guitoun, Castro Ferreira ou encore Capozzo. Donc défaite anecdotique, mais qui n'enlève rien à la super performance lyonnaise, hein, qui ont fait une remontada magnifique. Je retiens quand même un truc négatif, c'est que, c'est pas l'équipe type, mais s'effondrer comme les joueurs du Gomola l'ont fait en seconde période, j'ai jamais vu ça, donc à part produire quand même pour les playoffs.
Et oui, tout à fait, Raphaël, il faut faire attention justement aux playoffs. Il ne faut pas qu'on se marche dessus. Mais justement, c'est vraiment dommage de partir pour ce dernier match de top 14 avec une défaite à la clé. Je veux dire, là, on a perdu contre une équipe qui luttait il y a encore quelques mois pour son maintien. Alors oui, le stade a préféré aligner l'équipe réserve pour que les titulaires soient prêts pour aborder la demi-finale de top 14 qui aura bientôt lieu. On a perdu, et pourtant, en première période, c'était vraiment pas mal. Hein, parce que j'ai vu le match, le stade avait bien engagé la rencontre avec les essais de Teo Ntamack, Castro Ferreira, et bien sûr, je suis obligé de parler de Ange Capuazzo qui a été brillant dans ce match. Il a eu du flair et il n'y a qu'à voir son essai à la 35e minute pour comprendre. Hein, vraiment un coup de génie. Malheureusement, en deuxième période, les rôles ont été inversés, hein, bien sûr. Évidemment, Lyon s'est complètement métamorphosé en inscrivant au total 6 essais et donc obtenu le point bonus dans ce match. Tu te rends compte quand même, le point bonus contre le Stade Toulousain. Tandis que nous, on est resté muets, quoi. Mais bon, pour l'honneur. Il y a Sofiane Guitoun inscrit l'essai de la 79e minute pour son dernier match de top 14 avec le stade. Franchement, il va me manquer, hein. Je l'aimais beaucoup.
Une légende.
Légende, vraiment. Et en fait, ça se voyait franchement que l'enjeu du stade était ailleurs, parce que là, on est quand même qualifié pour les demi-finales de top 14, mais en fait, ça se voyait justement que le match n'était pas pris au sérieux. En plus, on a fini premier du championnat, donc on a perdu dans un Gerland guichet fermé. Je pense que les supporters du Loup n'ont pas l'habitude. Ça me rappelle l'époque où Lyon jouait encore dans ce stade, enfin l'Olympique Lyonnais. En tout cas, c'est une défaite et une charrière oubliée, mais on a eu de belles prestations. Castro Ferreira, Verger, Teo Ntamack, Capozzo. Comme quoi, on peut faire confiance à notre réserve qui a apporté de bons résultats contre Montpellier et La Rochelle.
Exactement, c'est sûr qu'on a vu même une équipe bis aussi affronter Toulon, je m'en rappelle, au Vélodrome. Ils ont fait un match nul. Donc c'était quand même une équipe bis assez solide. On va faire un point du coup sur le classement final de ce top 14. Toulouse finit premier avec 76 points, suivi de très près quand même par le Stade français 75 à un point près. C'est chaud quand même le podium. Et troisième 69 points, l'Union Bordeaux-Bègle qui complète ce top 3. Quatrième Toulon, cinquième La Rochelle et sixième le Racing qui ferme ce top 6 pour accéder au play-off. Castres, avec le même nombre de points que le Racing, n'accède pas au play-off malheureusement. C'est dommage pour eux. Et d'ailleurs, en parlant de play-off, ils vont se jouer donc la semaine prochaine. On aura les playoffs à partir de samedi, le barrage numéro 1, le samedi 15 juin. Le RCT, le RC Toulon, qui affrontera le Stade Rochelet. Et le barrage numéro 2, ce sera le dimanche 16 juin, l'UBB contre le Racing 92. Les deux matchs se jouent à 21h15, juste pas le même jour. Le dimanche aussi aura lieu le match pour jouer le top 14 la saison prochaine avec le duel entre le Grenoble Rugby qui va tenter de remonter 5 ans après sa descente en Pro D2. Et cette équipe va affronter Montpellier qui sort d'une saison difficile dans l'élite, mais qui possède donc une dernière cartouche pour se maintenir. Et la suite des barrages, ce sera le vendredi 21 juin au Stade Toulousain qui affrontera donc le vainqueur du barrage numéro 1 soit Toulon, soit La Rochelle. Et le 22 juin, le Stade français affrontera soit l'Union Bordeaux-Bègles, soit le Racing.
Et moi j'attends, mais vraiment, si jamais La Rochelle se qualifie contre Toulon, j'ai envie de revoir encore un duel Stade Toulousain-La Rochelle parce qu'ils nous ont vraiment régalé au Stadium, 31 partout. Surtout en plus, en vrai, c'est les deux meilleures équipes, en vrai, sur le papier. Toulon, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Et par rapport à Grenoble-Montpellier, ce serait cool que Montpellier reste en top 14. En fait, ce serait vraiment bizarre de les voir en Pro D2, si tu veux.
Exactement. Et surtout, Grenoble, on n'a pas trop l'habitude non plus de les voir en top 14. Ouais. Donc bon, et oui, c'est sûr que le niveau de jeu de La Rochelle, moi, je le préfère par exemple à celui d'un Stade français qui est quand même second. C'est très mérité. Mais c'est sûr qu'un match Stade Toulousain à La Rochelle, ce serait quand même fou. On va parler quand même de Pro D2 aussi, parce qu'il s'en est passé des choses en Pro D2, un truc historique. Un truc quand même assez historique qui s'est passé. Un club breton en top 14, ça a été, je pense, du jamais vu. C'est du jamais vu, tout simplement. Vannes, qui a affronté donc le Grenoble Rugby, qui a vaincu le Grenoble Rugby 16-9 dans un match Vannes a réussi à dominer à peu près tout le match. C'était assez inespéré, quand même, un premier club breton de l'histoire à rejoindre le top 14. Et donc, Vannes jouera donc en Challenge Cup l'année prochaine. Yanis, t'as peut-être quelque chose à dire?
Eh bien, le match a été globalement dominé par Vannes, même si Grenoble, à la toute fin du match, aurait pu bénéficier d'un essai de pénalité suite à une faute d'un joueur du RC Vannes. Ouais. Mais globalement, Vannes, qui a terminé second de la saison régulière de Pro D2, a maîtrisé le sujet. Ils ont montré pourquoi ils avaient terminé deuxième. Et surtout, on n'attendait pas le FCG à cette place-là, parce qu'ils ont quand même réussi à éliminer Provence Rugby, qui avait terminé premier de la saison régulière. Donc tout n'est pas encore joué pour Grenoble, qui vont recevoir Montpellier le week-end prochain au Stade des Alpes. Donc grosse ambiance, ça va être dur pour Montpellier, même si on reste sur une grosse équipe du top 14 qui a peut-être eu une saison compliquée, mais qui normalement devrait arriver à faire la différence face au FCG.
Toi, t'avais quelque chose à dire peut-être, Alex, aussi?
Franchement, oui, déjà, c'est incroyable de voir le tout premier club breton de l'histoire à atteindre le top 14, c'est du jamais vu. Et c'est vrai que ça faisait longtemps quand même qu'ils étaient en Pro D2, Vannes, parce qu'il me semble qu'ils avaient enchaîné ils étaient à chaque fois en phase finale de Pro D2, mais
2018,
ils n'arrivaient jamais à remonter.
2019, ils étaient en phase finale, ouais.
Et surtout, en plus, Grenoble, pour moi, c'est un peu le club malchanceux, parce qu'à chaque fois, tu les vois en finale de Pro D2, mais à chaque fois, contre Yona, la saison dernière, ils ont perdu, alors que voilà, ils auraient pu très bien monter. Non, franchement, c'est un grand bravo à eux, surtout qu'en plus, on a vu beaucoup de supporters bretons à Toulouse. Et...
Exactement, ouais. On les a croisés d'ailleurs. Mais ouais, c'est sûr que Vannes aussi mérite bien son match. Ils ont quand même bien joué face à Béziers, victoire 27-21. Et Grenoble aussi, qui avait fait un excellent parcours dans ses barrages d'accession en top 14. Ils avaient quand même battu Dax 58-10, donc un gros carton qui les mettait en confiance. Ensuite, contre Provence Rugby. Donc bravo aux deux équipes, mais bravo à Vannes, on les verra peut-être l'année prochaine, sûrement l'année prochaine. Donc bravo à eux. Ce samedi soir et ce vendredi soir avec Alexandre, on était au plus gros événement de MMA de Toulouse jamais organisé pour l'instant. L'Hexagone MMA s'est déroulé au Palais des Sports ce samedi. C'était franchement incroyable, on était avec Alex, on était à la conférence de presse pour interviewer un certain Owen Jason qui a gagné, le Toulousain qui a gagné samedi soir, et on a aussi réussi à interviewer le champion Michael Aljarouge après sa victoire, son titre de champion de l'Hexagone MMA, lui qui vise l'UFC. On a réussi à les interviewer, d'ailleurs, on va commencer peut-être par Owen Jason. On a posé quelques questions, combattant Toulousain qui a effectué son premier combat pro samedi soir, on abordait donc son adversaire. Bon, le résultat, quand même, on vous spoil un peu, c'est la victoire de Wayne Jason par KO technique au premier round face à Junior Cassiano. Il nous disait que, justement, vous allez entendre que ne pas sous-estimer son adversaire, c'est ce qu'il a fait. Écoutez.
Bien sûr, ouais. Déjà, premièrement, faut pas résumer un combattant à son dernier combat. Tu vois, des fois, tu traverses une mauvaise passe ou quoi, ça arrive. Toujours rester, ne sous-estimer personne, toujours rester focus. Maintenant, c'est un gars qui part à la bagarre, qui tape fort, tu vois, on est passé en gant de 4. Mais je te mens pas que ce soit aux IMAF ou même en France, à moins de 77 kg, des gars qui tapent fort, j'en ai vu, des bagarres, j'en ai vu. Sauf que là, j'en ai vu qui faisait ma taille et qui était beaucoup plus lourd que lui. Et Axel Alfondari, justement, qui est un bagarreur avec qui je me bagarre souvent. Donc j'ai les armes pour, j'ai tout ce qu'il faut. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je reste très sûr de moi.
Confiant au niveau de la mentalité.
Bien sûr. Ouais.
On aborde ensuite ses débuts en pro en lui demandant mais depuis combien de temps il songe à passer pro, et vous allez voir que ça fait pas mal de temps et que le timing était bon. Hein.
Ça fait un bon petit moment, tu vois. Après les championnats de France, j'étais peut-être pas encore assez mature, mais une fois que je suis parti aux IMAF, que là-bas j'ai pris une expérience de fou, j'ai refait un combat de France-Portugal contre un Rivaldo Pereira à Tarbes là. Et en fait, je suis arrivé dans un mood où j'étais énervé, j'avais la dalle et je voulais frapper fort, tu vois, parce que j'ai pris un peu de poids depuis les IMAF. J'ai compris beaucoup de choses, que ce soit dans la cage ou hors de la cage, dans l'attitude et tout. J'ai tout ajusté. Il faut savoir que je suis un charbonneur. Je suis revenu, j'avais une main cassée, j'ai quand même continué à charbonner tout en la soignant parce qu'il faut être intelligent. Donc du coup, ça fait un bon 6 mois là que j'ai envie de passer pro. Hexagone Toulouse, j'ai vu. Allô JB, allô BTT, les gars. Et eux, c'est des flingueurs. C'est obligé que j'y sois.
Après, on parle évidemment de son surnom. C'est que tous les combattants ont un surnom. Comme par exemple Al-Jarouz The Soldier. Donc, la marque de fabrique des combattants, c'est peut-être une exclue. Radio Esprit Occitanie, on a son surnom pour vous.
Non, j'en ai pas encore.
Est-ce que t'as déjà une idée ou pas?
Franchement, tu sais, moi, on m'a toujours dit de choisir un truc qui te... Quand on l'évoque, ça te fait penser à toi. Bon, franchement, le météore, j'aime bien. Hein. J'aime bien, tu sais, parce que je me sens comme ça. Tu sais, j'étais un caillou comme les autres. Là-haut, en amateur, je commence à prendre beaucoup de vitesse. Moi, mon objectif, c'est l'UFC et tout péter là-bas. Et tu sais, tout ce qui est devant le météore, si c'est pas assez gros, ça l'arrête pas. Toi, tu vas, tu charbonnes. Et plus je descends, plus je gagne, plus je prends de la vitesse. Jusqu'au moment où tu es inarrêtable et viens ce qui arrive. Hein.
Et après, avec Alexandre, on a su un peu, on a voulu savoir comment il gérait ses études d'ostéopathie et en même temps, sa carrière de MMA pro. C'était assez intéressant, son passage.
Je te mens pas. Ah, tu sais quoi, j'aurais dit l'ostéo parce que le MMA, une fois que c'est fini, tu vois. Alors que l'ostéo, une fois que déjà c'est jamais fini, et en plus je peux rester dans la branche MMA, tu vois, j'adore coacher aussi. Je suis investi dans mes coachings, je sais pas si vous avez déjà vu. Non, j'adore coacher et tout, et mélanger les deux, c'est vraiment une passion. Mais maintenant, ma vraie passion, c'est le MMA, je me vois jamais arrêter. Tu m'as posé une question, j'ai jamais pensé carrément.
Du coup, ça t'apporte des connaissances aussi.
Bien sûr, ouais. Ça rapporte surtout une discipline. Après, je te mens pas, ça me prend beaucoup de temps. Et j'ai la chance d'avoir un statut de sportif de haut niveau à l'Institut Toulousain d'Ostéopathie de la Bège, à la Bège. Et d'avoir surtout une promo qui m'aide à mort. Tu vois, il me donne les sujets de devoir, il m'aide à réviser. Et vraiment, ils sont là pour moi. Vraiment, sans eux, je n'aurais pas réussi.
En plus, ça paraît assez compliqué, justement, d'alterner études et en plus de ça, les compétitions MMA.
Ah, mon gars, en amateur, ça m'est arrivé de faire des combats. Tu sais, tu combats le dimanche soir, lundi matin, t'es en cours partiel, tu dois assurer, t'as pas dormi de la nuit. Maintenant, mon école, c'est facilité, mais après, c'est ça, les gars, quand vous voulez vraiment un truc, si tu sais pas faire l'un ou l'autre, quoi choisir comme moi, fais les deux, mais fais-les à 1000%, t'as plus de vie à côté. J'arrive lourd, méchant et technique.
Donc, Owen Jason, on l'a vu, qui a gagné par KO technique. On a eu l'exclusivité d'interviewer aussi le champion du soir, Michael The Soldier Al-Jarouz, qui a gagné son titre, sa ceinture de champion à l'Hexagone MMA. Il avait annoncé un combat expéditif. Hein. Résultat, il gagne par KO technique aussi au second round. Donc on a ses ressentis, premièrement, on a ses ressentis.
Bien sûr, je suis toujours fier de ce que je suis en train d'accomplir parce que c'est du travail, des heures et des heures à l'entraînement, des sacrifices. J'ai fait ce que j'ai dit, je l'ai fini, j'ai ramené la ceinture à la maison.
Puis on aborde avec lui son futur, qui se décidera bientôt, continuera-t-il à l'organisation Hexagone ou alors continuera-t-il à l'UFC? C'est assez mitigé, mais quand même, on lui souhaite peut-être d'aller à l'UFC.
Moi, je pense par rapport à la performance qu'il a fait, je pense qu'il mérite largement sa place à l'UFC.
Eh bien, écoutons sa réponse.
Merci beaucoup. Merci. C'est ouais, bien sûr, c'est l'objectif de tous les combattants. C'est la plus grosse organisation. Mais comme je l'ai dit et je le répète, que je pars. Si je reste à l'Hexagone, eh ben, je suis le champion de l'organisation et je serai fier de redéfendre ma ceinture. Et si je pars à l'UFC, c'est un champion de l'Hexagone qui est parti à l'UFC.
voilà, c'était la première fois qu'on interviewait des combattants. On les remercie quand même pour leur disponibilité parce que c'était quand même très sympa. Alex, toi, qu'est-ce que t'en as pensé des deux?
En fait, ce qui est étonnant, chez les athlètes en MMA, c'est que tu vois, c'est des bêtes sauvages en cage et tout. Mais quand tu les interviews en dehors, c'est des crèmes, c'est des bons.
Franchement, ils étaient trop trop sympas et c'était un réel plaisir à faire les interviews. Donc vous avez eu les réactions, une avant combat et une après combat, donc c'était plus intéressant. On va passer peut-être aussi à l'UFC Night Fight Night qui a eu lieu. C'était quand? C'était le week-end dernier aussi, c'était il n'y a pas longtemps. Donc le français Nassourdine Imavov a réussi à décrocher une victoire par KO technique au 4e round contre Jared Cannonier, l'américain. Combat crucial pour le MMA français et pour Nassourdine qui voit sa réputation revue à la hausse et pourra peut-être se permettre de rêver de ceinture dans les prochaines années. Donc KO 4e round quand même, c'était assez long, mais après il a enchaîné, j'ai vu le KO technique, il a enchaîné, c'était fini pour Cannonier. Toi peut-être t'as vu un peu quelque chose?
Oui bien sûr, franchement il faut savoir qu'au départ il était un peu malmené dans les premiers rounds par Cannonier parce que justement c'est un adversaire qui est explosif et justement il incite énormément dans les phases de lutte. Et justement, c'est pour ça que Imavov, il a réussi à inverser la tendance en misant tout sur la boxe anglaise. C'est sa spécialité en même temps, sa précision à mi-distance, son coup d'œil en défense et sa résistance sur les clinches ont peu à peu épuisé justement Cannonier. Ce qui fait que, sachant que d'abord Imavov, il était mené au point, il a profité d'une ouverture pour placer un magnifique contre, un crochet du droit qui a heurté de plein fouet la mâchoire de Cannonier. Voilà, il a éteint l'américain et... Franchement, c'est une belle victoire pour l'UFC et pour le MMA français.
Exactement. En plus, l'arbitre a arrêté très vite. C'est KO technique, donc il n'est pas tombé, plus de son, plus d'image. Mais l'arbitre a arrêté très vite. Tu voyais que Cannonier titubait depuis quelques secondes. Et puis, les droites incessantes de Nassourdine, elles étaient surpuissantes. Donc, victoire française à l'UFC, c'est bon signe.
Franchement, c'est complètement bon signe. Ça veut dire que là, si Imavov il a réussi à l'UFC, je vois pas pourquoi Aljarouj il mériterait pas justement d'aussi venir à l'UFC.
Ouais, il a dit, il se maintient quand même un peu. Donc on verra bien, on sait de bonne chance aux deux. Bon, on s'envole. Au Canada désormais, au circuit J. Villeneuve, on a eu le droit au Grand Prix le plus mouvementé de la saison. Ce week-end au Canada, c'est sûr qu'en général là-bas, on s'ennuie vraiment pas souvent. Et en plus, si on ajoute une météo capricieuse, des safety cars et des stratégies, la régalade est assurée. Bon, c'est sûr que c'est quand même Max Verstappen qui remporte ce Grand Prix devant George Russell et Lando Norris. Un podium qui s'est quand même bien mélangé au fil de la course, puisque c'est Russell qui s'était lancé en pole position devant Verstappen et Norris. C'est ensuite Lando qui a pris les rênes de ce Grand Prix avant l'arrivée de plusieurs abandons, venant totalement chambouler les stratégies. Et l'écurie McLaren aussi en a fait les frais, donc en s'arrêtant un tour plus tard que tout le monde dans une des premières safety cars. Il perd deux places et se retrouve quatrième à la sortie des stands, limite quatrième à la sortie des stands en se battant avec Oscar Piastri. Donc ça s'est aussi plutôt bien battu en milieu de tableau, on l'a vu avec de très 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 beaux dépassements. Un des plus beaux dépassements de la saison d'ailleurs, on s'en rappellera, c'est celui d'Alex Albon sur Ricciardo et Gasly au tour 31 dans la dernière chicane. C'est incroyable, il s'est faufilé dans un trou de souris, c'était magnifique. En parlant de Gasly quand même, on peut parler d'Alpine qui se rassure bien sur ce week-end avec leurs deux voitures dans les points, Gasly et Ocon respectivement 9 et 10e. Ocon d'ailleurs qui n'a pas été renouvelé chez Alpine, on l'a su il y a quelques semaines, c'est donc après plus de 5 années chez l'écurie française qu'Esteban Ocon fait ses valises à la fin de la saison. On l'a vu dans les stratégies que Ocon n'était plus avantagé, on l'a su parce que Ocon a dû laisser passer Gasly pour essayer de rattraper Ricciardo. Gasly n'a pas réussi, le deal était si Gasly n'arrive pas, Ocon reprend la place, ça n'a pas été chose faite, donc on verra la future écurie d'Esteban Ocon, beaucoup le voient chez Haas. Moi, j'aimerais bien le voir chez Mercedes. On sait qu'il a été troisième pilote là-bas. Alex, t'avais quelque chose à dire, toi, peut-être ?
Bon, oui, évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que là, que dire de ce Grand Prix catastrophique de Ferrari ? Déjà que pendant les qualifications, Sainz et Leclerc, ils font l'exploit d'être éliminés en Q2. Mais là, comme si ça ne suffisait pas, il y a eu le double abandon de Ferrari. Leclerc a abandonné en premier à cause d'une panne moteur. Ça, on l'a vu. Donc, niveau retard, il n'était pas prêt de continuer la course dans de bonnes conditions. Et pour Sainz, il avait mal négocié le virage. Mais le pire, c'est sa monoplace qui a voulu drifter. On ne sait pas pourquoi. Donc deux abandons, franchement si Enzo Ferrari voyait ça, il aurait pété un câble, mais vraiment. Bon, alors je vais pas parler que de Ferrari, parce que mis à part ça, on a assisté à un vrai Grand Prix, il y a une vraie bataille pour le podium, c'est vrai. Il y a eu des contacts durs, mais fair play entre certains, et Magnussen avait bien commencé le début de course aussi, avec l'écurie Haas justement. En fait c'est juste dommage qu'il s'arrête au stand trop tôt, parce que franchement il avait bien continué. Et on a vu aussi que McLaren jouait le titre avec la bataille pour le podium, entre les Mercedes et la McLaren de Piastri, pardon. Franchement, McLaren, incroyable la saison qu'ils sont en train de faire.
Ah, remonté par rapport à l'année dernière.
Et voilà, et justement, pour finir, je retiens la performance. Et comme tu as dit, des deux Alpines qui ont fini 9e, 10e. Même s'il y a eu 5 abandons, bon, sans commentaire, c'est déjà hyper tendu chez Alpine. Mais je tiens quand même à souligner le blocage de Pierre Gasly par Esteban Ocon dans les derniers tours.
Exactement, exactement. Yannis aussi, t'as vu le Grand Prix. T'as noté des choses ?
Ouais, au début, on pensait que la stratégie de Haas, qui était de partir en pneus pluie, ça marchait plutôt bien. Parce que Magnussen, il arrive à se placer quand même quatrième au début de la course. Mais après, c'est compliqué avec l'arrêt de la pluie. Il a fallu changer les pneus et on a vu que c'était plutôt compliqué pour Haas de revenir. Et après, rajouter que Lando Norris a fait une grosse course, même si, voilà, comme vous l'avez dit, la safety car, ça lui a un peu planté la course et après, il ne pouvait plus revenir sur Verstappen et sur Russell. Mais malgré tout, on voit que Red Bull a quand même des difficultés comparées à l'année précédente, par exemple. Donc, je pense que le classement peut être rebalancé. C'est pas totalement terminé et on peut avoir un classement qui pourrait changer jusqu'à la fin de l'année. Il reste quand même une quinzaine de courses, donc on a encore de quoi voir quelque chose.
C'est ça, c'est qu'on n'est même pas à la mi-saison, on n'est même pas encore à Spa. Et c'est ça, tu l'as dit, Red Bull en fait est prenable. Pour une fois, Red Bull est prenable par, on va dire, les concurrents un peu potentiels. Ce serait Ferrari, McLaren, même si Mercedes était en forme ce week-end. Donc Red Bull est prenable. Leclerc est à environ une soixantaine de points de Max Verstappen. Et même Lando Norris n'est plus qu'à 7 points de Leclerc. Donc ça va se resserrer. La mi-saison aussi, il y aura peut-être beaucoup d'upgrades à venir pour les voitures. Donc on verra ça et ça va être franchement là. Là, il y aura du combat par rapport à l'année dernière. Bon, qu'est-ce que serait traditionnel sans parler de foot ? Évidemment, on va passer au foot. À l'heure où passe cette émission, c'est J-2 avant l'Euro. On a eu des matchs amicaux quand même, hein, France-Canada. 0-0 à Bordeaux, un bon vieux 0-0. Nous, on était à l'Hexagone MMA avec Alex, mais quand j'ai vu le résultat, c'était quand même impressionnant, avec du différé, on l'a vu évidemment. Il y a eu l'Italie aussi qui a battu la Bosnie 1-0, donc c'est de bon augure pour l'Italie qui avait fait match nul juste avant. Et le Portugal, malgré la victoire contre la Finlande 4-2 il y a 2-3 jours, ils se sont fait battre par la Croatie 2-1, une belle Croatie, mais c'est le Portugal quand même qui se fait peur parce qu'ils ont peut-être même aligné peut-être l'équipe type face à ces joueurs croates, donc à eux de se ressaisir. Pour l'Euro, qu'est-ce que t'as noté toi, Alex ?
Par rapport à Italie-Bosnie, alors c'est vrai qu'on a gagné, mais j'ai vu le match et franchement, c'était pas vraiment l'équipe d'Italie que j'attendais parce qu'il y a eu énormément de ratés côté italien, les Bosniens aussi qui étaient assez dangereux en attaque. Bon, il y avait Donnarumma, heureusement quand même c'était l'équipe type, mais bon en vrai ce score 1-0 contre la Bosnie c'est pas terrible, hein, qu'on se le dise. Et en vrai Portugal-Croatie, ça va, en vrai, vous les Portugais vous pouvez vous rassurer parce que vous affrontez bientôt l'Irlande. Et en plus, là, l'Euro arrive bientôt, pardon, et franchement, vous avez un groupe assez prenable. De toute façon, on va en parler juste après de l'Euro.
Exactement. Yannis, t'avais quelque chose à dire, toi, peut-être sur le match de la France ou quoi ?
Ouais, bon, un match où franchement, on s'est ennuyé devant. Mais bon, après, si je me rappelle bien, avant la Coupe du Monde en 2018, on avait une préparation très compliquée. Donc, je pense que Deschamps, c'est à peu près ce qu'il fait. Il a un groupe qu'il connaît bien, où il n'y a pas eu tellement de changements sur les dernières années. Donc je pense qu'on n'a pas trop besoin de s'affoler, la France saura quoi faire lors de la compétition. C'est surtout l'équipe, par exemple les Pays-Bas, qui malgré sa victoire 4-0 a perdu Frenkie de Jong et Koop Meiners sur blessure. La Pologne, elle a perdu Lewandowski, qui normalement ne serait pas out toute la saison, toute la compétition, pardon. Mais on voit que les autres grandes équipes perdent pas mal de joueurs, donc ce qui peut être plutôt avantageux pour l'équipe de France.
Ouais, la chance légendaire de Didier Deschamps, on la connaît, mais il y a même aussi des joueurs blessés côté autrichien, donc on va en parler de cet Euro, on va parler des trois plus gros groupes, on va dire, le groupe de la mort d'abord, le groupe B, il y aura l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Bon, l'Espagne est quand même favorite parce que c'est quand même l'Espagne, quoi. C'est des légendes du foot. Après, comme deuxième, comme second, la Croatie ou l'Italie, ça va jouer de très peu. L'Italie tenant du titre se doivent au moins de sortir du groupe ou d'être meilleur troisième, mais ça ferait tâche. Le groupe de la France et le groupe D, la Pologne, les Pays-Bas et l'Autriche. Donc, on l'a dit, beaucoup de blessés du côté des trois concurrents de la France. Donc, la chance de Didier Deschamps peut-être de retour, on voit quand même les Français premiers, c'est l'objectif, au moins objectif demi-finale ou finale pour ces Bleus. Et le groupe F aussi qui peut être intéressant avec le Portugal, la Turquie, la Géorgie et la République Tchèque. La République Tchèque, je pense qu'ils peuvent faire de beaux trucs. La Turquie qui avait déçu, on se rappelle, à la Coupe du Monde 2022. Et donc on verra ça, J-2, et jusqu'à la prochaine émission de la Conta avec Alex, il y aura 15 matchs. Donc on va pas parler des 15 matchs, mais pour ceux qui aiment le foot, bah ils vont pas s'ennuyer franchement jusqu'à mercredi prochain. Il y aura le match d'ouverture évidemment vendredi. Donc on verra ça, on vous tiendra au courant, 15 matchs jusqu'à l'émission prochaine. J'adore ça, franchement, j'adore ça, on va se régaler. Petit pronostic peut-être les gars pour le... Allez, pour le vainqueur. C'est un peu loin, mais bon, on n'a pas vu encore de match. Qui veut commencer ?
Alors je pense que je peux commencer. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que en fait, il y a beaucoup de grandes nations qui méritent de gagner, mais le problème c'est que justement, soit t'es une équipe malchanceuse, tu perds tous tes talents, donc après forcément t'es une équipe lambda. En vrai, ce serait bien de voir la France quand même, parce que je veux dire là, la France... Bon bah malheureusement c'est fait surprendre par la Suisse, hein, on s'en rappelle de l'Euro 2021. Et l'Angleterre, en fait le problème aussi de l'Angleterre c'est que c'est quand même une équipe favorite, mais Southgate, justement on avait parlé avec Yanis par rapport à Southgate, c'est pas un bon coach et je pense que l'Angleterre va se cracher directement. On a la Belgique qui est pas mal, je peux pas vraiment donner de vainqueur mais ce serait pas mal de voir la France au moins gagner l'Euro, ça fait 21 ans qu'ils l'ont pas remporté.
Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi sur les finalistes. La France c'est quand même un groupe soudé où dans tous les secteurs du jeu on a quand même de très bons joueurs et on a aussi des joueurs comme Kylian Mbappé, Griezmann qui sont des joueurs à part. Et pareil pour les Anglais, c'est une équipe avec énormément de talent. Il y a beaucoup de joueurs, quand on les regarde jouer, on prend un plaisir. C'est Bellingham, Foden, si on cite qu'eux. Après, pour l'Angleterre, il y a toujours un peu ce syndrome. Chaque fois qu'ils ont eu des grosses équipes talentueuses comme ça, ça a toujours été compliqué. Ils n'ont jamais rien gagné. Et puis, comme tu l'as dit, Southgate qui est... pas forcément un coach qui est très reconnu. On verra bien ce que ça donne et puis je pense qu'on va se régaler avec cette compétition.
Angleterre, France, on les voit, mais oui, c'est sûr que même avec la génération des Rooney, des Ferdinand, tout ça, des Gerrard, Lampard, ils ont réussi à accrocher aucun titre. Donc c'est assez dommage peut-être voir. Bon, après, on les a vus en finale en 2020 quand même face à l'Italie, donc c'est cool. De mon côté, quand même, je vois peut-être le Portugal en surprise parce qu'ils ont une grosse équipe. Il y a Leao sur le côté qui peut faire des bonnes choses. Ronaldo, peut-être pas titulaire, mais en cadre, en second entraîneur, on va dire, pour l'équipe qui peut faire un gros truc. T'avais quelque chose à dire, Alex ?
Oui, c'est sûr, le Portugal, on en parle. Hein. C'est un peu une équipe malchanceuse aussi. Enfin, à quoi qu'ils avaient remporté l'Euro 2016, mais je parle.
2016, on a gagné.
La Coupe du Monde, voilà, c'est pas trop votre truc au Portugal, mais bon. L'Italie, parce que moi je suis italien aussi, bon, je pense pas que l'Italie va faire quelque chose à l'Euro, mais d'ailleurs j'avais une dernière question, vous voyez qui comme outsider, comme surprise si vous voulez de cette compétition ?
Ah, la surprise, c'est intéressant, la surprise en vrai, petit.
Bon, si on suit le groupe B, le groupe D, le groupe F, on va pas faire tous les groupes.
En vrai, je sais pas si l'Espagne ce serait une surprise, mais la Belgique on en parle pas, mais dangereux aussi, hein. Ça peut être dangereux aussi. Allez, la Turquie se rattrape de la Coupe du Monde 2022, je pense. On avait beaucoup d'espoir sur eux, Yanis.
Ouais, moi aussi, je redis la Turquie. Ils ont des joueurs plutôt intéressants. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans pas mal de clubs européens. Donc, c'est une équipe qui va avoir une expérience qui est grandissante. Donc, je pense que toute cette expérience et le talent qu'ils ont, ça va pas mal les aider aux Turcs.
Toi, Alex, tu vois qui ?
Alors, c'est vrai que la Turquie est assez... En fait, c'est pas mal la Turquie, parce qu'il y a un joueur que j'aime bien, qui joue à la Juve, qui s'appelle Kenan Yildiz, pardon. C'est un très jeune joueur qui est assez bon avec la Turquie. Mais moi, je pense que j'opterais bien pour la Géorgie. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, ils ont quand même Kvarashkelia, Mikotadze, qui joue...
Ouais,
après, on me semble qu'on a un gardien, Mamardashvili, je crois, qui joue en Liga espagnole. En tout cas, il est pas
oui,
mal.
Oui, il joue à Las Palmas, je crois, un truc comme ça.
C'est ça. En vrai, la Géorgie, ça peut être une bonne équipe, mais bon.
Petite surprise. Ça fait... Ouais, parce qu'ils n'avaient pas joué l'Euro 2020, ni l'Euro 2016. Donc en vrai, petite surprise.
Mais non, je crois que c'est la première fois qu'il
s'est qualifié. Voilà, c'est ça.
L'ancien entraîneur, c'est...
C'est un Français, non, qui entraîne.
Oui.
Ouais. C'est pas Claude Puel.
Non. C'est Willy Sagnol.
Ouais, donc du coup, Willy Sagnol qui peut peut-être emmener ses Géorgiens un peu plus loin, je pense, ouais.
Ouais, après, ça va quand même être compliqué, je pense, pour la Géorgie, même s'ils ont 2-3 bons joueurs. Le reste de l'équipe, ça reste quand même assez faible. Mais après, rien ne peut les empêcher, peut-être, pourquoi pas, de se qualifier en huitième. Ce serait déjà, ouais, je pense, ça, une grande chose pour ce petit pays dans le football.
Un parcours un peu comme l'Islande en 2016, qu'on avait vu, qu'ils sont allés jusqu'en quart de finale face à la France. On peut, hein. Il y a moyen, donc on verra ça. De toute façon, ça commence dans deux jours, donc vous verrez bien. Bon, bah ça y est, ce mois de Roland-Garros, bah c'est fini. Il y en a eu des surprises. Hein. Pour commencer, bah ce n'est pas un des trois gros poissons du tennis mondial de ces 15 dernières années qui a soulevé le trophée du Grand Chelem. Ça n'était pas arrivé depuis 2004. Seul Stan Wawrinka avait réussi en 2015 à stopper la suprématie. Malgré le fait que ce soit pas la figure de ce tournoi, j'ai nommé Rafael Nadal qui a gagné ce tournoi. C'est son compatriote qui s'est occupé de ramener le trophée à la maison. Carlos Alcaraz gagne donc face à Alexander Zverev en 5-7. Il perdait 2-7 à 1. Au troisième set, Carlos Alcaraz il s'est fait peur, mais s'est réveillé pour atomiser l'Allemand. Zverev, dans les deux derniers sets, il s'est tué au troisième set et Alcaraz l'a terminé 6-1, 6-2 sur les deux derniers sets. C'est dû en grand Alcaraz, il nous a prouvé qu'il mérite sa place numéro 3 et même un peu plus. T'en penses quoi toi, Alex?
Alors c'est vrai que oui, Alcaraz mérite Roland Garros. C'est vrai que ça fait mal de dire ça parce que en vrai j'étais plutôt pour Sinner à la base, parce que c'est vrai que on parle du duel Alcaraz-Sinner, il faut savoir quand même que en fait c'était assez serré, ça veut dire que Sinner il gagnait le premier set, après c'était autour d'Alcaraz, ainsi de suite, jusqu'au dernier set où là bon bien sûr Alcaraz amenait 6 jeux à 3, donc voilà, 3 sets à 2, victoire d'Alcaraz. C'était un duel hyper serré, mais bon, Alcaraz c'est quand même mérité. Je m'attendais pas à ce que Zverev remporte Roland Garros, non, parce qu'on le connaît, il arrive en finale mais il perd.
Il y a une histoire peut-être.
C'est surtout que le premier set qu'on a eu remporté par Alcaraz, il a été assez dur parce qu'on avait pas mal de fautes entre les deux joueurs. Voilà, c'était pas le meilleur set. Après, ce qui est quand même fou, c'est que Alcaraz, à 21 ans, il a déjà gagné chaque grand trophée, ce qui est quand même pas mal pour son âge. Et voilà, on voit que quand la machine est lancée, c'est très compliqué. À jouer contre lui. Zverev avait réussi à mener 2-1, mais il a dû beaucoup s'épuiser pour pouvoir remporter ce deuxième set, et on voit que dans les deux derniers sets, Alcaraz il déroule, il laisse aucune chance et il montre que c'est lui le patron, quoi.
Exactement, il a montré de toute façon peut-être une nouvelle suprématie espagnole sur Roland-Garros, moi j'en doute pas trop vu comment il allait sur terre battue, donc bon, on verra l'année prochaine. Et chez les filles, quand même, on va parler des filles. La hiérarchie a été respectée. Hein. C'est la Polonaise Świątek, numéro 1 mondiale, qui est nommée reine sur la terre battue parisienne en 2024, face à la petite surprise quand même de ce tournoi, l'Italienne Paolini. Les Italiens, quand même, qui commencent à briller cette année avec donc Paolini qui atteint la finale. Chez les hommes, c'est Sinner qui prend pour la première fois la place du numéro 1. C'est une première pour un Italien aussi sur le circuit mondial. Donc l'Italie qui revient, parce que je sais pas si on a trop vu d'Italiens
dans le top mondial,
donc qui vient petit à petit prendre de la place sur ce circuit mondial du tennis, donc ça fait plaisir à voir, contrairement aux Français qui galèrent toujours, on le sait, donc
c'est un sujet sensible, ça.
Au quart de finale, on va dire, on va pas en parler des Français. Donc ouais, l'Italie qui monte le bout de son nez sur le tennis mondial, donc ça fait plaisir, un peu de nouveauté, surtout après la fin d'un cycle des trois gros. Bon, on touche à la fin de cette émission quand même, mais on va faire une petite preview de ce qui va se passer les semaines à venir. Donc évidemment, on a vu les finales de top 14, le Racing Club de Toulon contre La Rochelle, donc ce sera ce samedi à 21h05, il faudra suivre ça, et le lendemain, le dimanche à 21h05, l'UBB contre le Racing 92, ce seront les futurs adversaires du Stade Français et du Stade Toulousain, donc faut être au courant, là, de toute façon, on va vous mettre au courant, c'est sûr. En parlant de rugby, on va passer aussi au rugby à 13. Théo 13 qui n'a pas joué donc ce week-end, qui va jouer contre Doncaster. Un gros, 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 gros match qui va permettre peut-être aux joueurs du Théo 13 de se maintenir dans le top 5 de cette deuxième division de rugby à 13. Ils doivent gagner, ils ont enchaîné deux grosses victoires d'affilée, donc va pour la troisième. Du côté foot, ce sera l'Euro 2024, on en a parlé, 15 matchs. On va pas traiter les 15 matchs, mais les plus gros, on espère qu'on va se régaler à tous les traiter. La France jouera le 16. Jouera son premier match le 16, donc vous aurez ça dans la prochaine émission. En Formule 1, la Formule 1 fait une pause d'une petite semaine, le temps de se décaler en Espagne, à Barcelone, pour ce Grand Prix où on attend peut-être un peu des upgrades mécaniques, surtout du côté chez Ferrari, parce que gros problème moteur, ils ont fini en Q2 aux qualifications. Donc on attend retour de Ferrari et un combat toujours aussi présent. Et pour finir l'UFC Fight Night, Whitaker, donc l'Australien qui affrontera Khamzat. Khamzat en 13-0, hein, toujours, qui n'a toujours pas perdu. Donc le 21 juin, on suivra ça aussi de très près. C'est un gros combat, très très gros combat. Bon, c'est la fin de cette émission. On a traité beaucoup de choses aujourd'hui avec Alexandre et Yanis. Merci d'ailleurs d'être intervenu, ça fait plaisir.
Merci à vous les gars.
Et merci aussi à toi Alex, toujours de bosser sur cette émission, c'est toujours régalé, hein, franchement. C'est
écoute, plaisir partagé, hein, franchement, c'était incroyable, surtout l'Hexagone MMA, je me rappellerai toute ma vie, franchement, c'était incroyable à Toulouse. Je ne sais pas s'il y aura à l'avenir peut-être d'autres événements MMA comme ça sur Toulouse, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé. Et pour l'Euro 2024, j'attends vraiment l'Euro 2024, ça va être incroyable.
Là, on a hâte, franchement. On a essayé de caler des interviews, vous nous direz peut-être des petits retours sur les interviews. C'était la première fois, donc nous, on est assez fiers de ce qu'on a fait. C'était un très bel événement, et puis de toute façon, c'est un petit nouveau format de caler des interviews, donc c'est cool. Et avec Alexandre, on vous dit à la semaine prochaine.